Les oiseaux ont une forme d'intelligence, reste à définir quelle est cette forme.
Donc on doit poser des questions de dauphins à des dauphins, des questions de blattes à des blattes, des questions de chats à des chats.
Mademoiselle Desbiers va, avec une lame de rasoir, couper la tête, si l'on peut dire, de la plante.
Oui, les plantes sont intelligentes. Elles sont fixées, donc elles doivent absolument percevoir tout ce qui se passe dans l'environnement pour réagir très rapidement, finalement.
J'ai peur.
La cellule, pour le biologiste, c'est ça la définition de la vie. Mais la cellule a des prédateurs, les microbes, que sont les virus, les bactéries et les champignons. Ces microbes ont des stratégies pour déjouer les systèmes de défense et s'adapter à de nouveaux milieux. Les microbes sont regroupés dans un bestiaire d'une indomptable vitalité. Nous ne saurions vivre sans les microbes, ils nous font du bien. Mais les microbes peuvent aussi nous faire du mal et être à l'origine d'épidémies. Et là, on constate que la fécondité de la nature dépasse souvent l'imagination des scénaristes les plus fous. Ce que nous vivons avec la Covid en est la preuve. Pour nous parler des virus et des bactéries, Patrice Debré, professeur d'immunologie à Sorbonne Université. Il a été ambassadeur de France, chargé de la lutte contre le sida et les maladies transmissibles. Son dernier livre, Les révolutions de la biologie et la condition humaine. Il est aussi l'auteur de Vie et mort des épidémies. Tous ses ouvrages sont parus aux éditions Odile Jacob. Patrice Debré est un spécialiste des microbes.
Les aventuriers sur France Inter.
Donc les microbes représentent en fait trois séries, si je puis dire, de micro-organismes qui sont les virus, les bactéries et les champignons. Ce qui différencie en fait les virus des bactéries et des champignons, c'est que les virus ont besoin de parasiter eux-mêmes des cellules pour arriver à survivre. Autrement dit, ils ne vivent pas tout seuls, si on pourrait appeler ça d'ailleurs la vie. Ils ne se reproduisent pas tout seuls, il faut qu'ils intègrent une cellule et qu'ils parasitent son énergie à leur profit.
Ça, c'est pour les virus et les bactéries.
Alors, les bactéries sont capables de proliférer elles-mêmes. Elles ont de nombreuses fonctions. Elles communiquent entre elles. Elles prolifèrent. Elles se multiplient. Donc, par conséquent, elles se reproduisent. Et puis, on les voit rencontrer l'homme. Et on les voit rencontrer l'homme avec deux, on va dire, manières. L'une est la bactérie méchante, la bactérie pathogène, celle qui nous rend malades avec toute une série de maladies infectieuses et qui furent peut-être les premières à attirer l'attention finalement sur leur règne. Et puis il y a aussi les bactéries commensales, celles avec lesquelles nous vivons et qui nous rendent de très grands services.
Il paraît que 90% des virus et des bactéries d'aujourd'hui étaient inconnus il y a 40 ans.
Oui, nous avons fait une avancée absolument considérable entre la fin du XXe siècle, si je puis dire, à partir donc des années, on va dire la deuxième moitié du XXe siècle et celles qui viennent maintenant, avec des découvertes considérables de nouvelles bactéries qu'on va trouver partout. On va les trouver bien sûr dans l'environnement, les sols, les animaux, mais on va les trouver aussi chez l'homme. Et peut-être pour qui voudrait être aujourd'hui un des explorateurs des bactéries, eh bien aller chercher ces microbes commensaux, comme nous le parlions tout à l'heure, est un moyen sans doute de faire des nouvelles découvertes. Dans votre bouche, au moment où nous parlons, il y a peut-être des bactéries nouvelles.
Patrice Debré, vous dites qu'il y a trois histoires qui font date dans l'histoire des microbes, et vous allez nous en parler. Mais avant cela, je vous propose d'écouter ce que disait le docteur André Soubiran en 1961.
À partir de 1820, la mode s'est introduite de pansements fréquents au cérat, des cataplasmes de farine de lin, des pommades de grasse, parfait milieu de culture pour l'infection. Aussi, le pus, comme s'il était ensemencé par les chirurgiens eux-mêmes, se met-il à germer et à couler de toutes parts. De plus, la première moitié du XIXe siècle, et même bien après 1870, est l'époque sale par excellence, celle où l'on se lave à peine les mains entre une autopsie et une opération, celle où l'on effectue des interventions successives avec les mêmes instruments et sans aucun soin de propreté.
Un commentaire sur ce son. Donc au XIXe siècle, on n'était pas du tout très prudent.
Oui, nous allons entrer finalement dans le monde des bactéries, mais surtout celui de l'hygiène dont nous venons d'entendre un extrait. Avec les découvertes d'Ignaz Semmelweis. Semmelweis était un Hongrois qui était un gynécologue qui avait fait ses études à Vienne. À Vienne, en l'époque, Semmelweis avait remarqué que parmi les deux grandes maternités de la ville, il y avait des pourcentages de mortalité qui étaient différents. Dans la première, on mourait beaucoup, et dans la seconde, beaucoup moins. Et la différence essentielle, autre chose qu'il avait remarqué, est qu'il y avait dans la première des étudiants en médecine. Vous allez me dire, le rapprochement de l'un avec l'autre n'est pas évident, et c'est pourtant l'idée qu'Hussommelweis. Il a pensé que les étudiants en médecine pouvaient d'une certaine manière être responsables de cette paternité. Et il a donc suivi ses étudiants en médecine tout au cours de la journée et remarqué qu'ils passaient des salles d'autopsie le matin aux examens gynécologiques des femmes enceintes directement après. Il a eu l'idée alors que le passage de l'un à l'autre nécessitait un lavage des mains. Et c'est ce lavage des mains qui a permis de diminuer la mortalité de cette maternité et de démontrer par conséquent qu'ils emportaient sur leurs mains, sur leurs doigts, quelque chose qui transmettait la mort.
Le lavage des mains est donc une étape importante dans l'histoire des microbes. Il y en a une autre, c'est la preuve que les microbes sont responsables des maladies. Comment est-ce qu'on l'a découvert ?
Oui, alors nous sommes bien plus tard et l'on doit ça à Louis Pasteur. À vrai dire, Pasteur était au départ un chimiste. Et ce qu'il a montré dans une des expériences que je considère être peut-être un des plus remarquables de sa vie, de sa longue vie de scientifique, c'est que les microbes étaient bien responsables des maladies infectieuses.
Comment est-ce qu'il a fait ?
Alors, il a pris du sang d'un animal qui venait de mourir, en l'occurrence qui venait de mourir du charbon, une maladie qui est connue aussi sous le nom d'anthrax, le mal noir, et ce sang, il l'a dilué progressivement, une fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois, et ainsi de suite. Mais toute l'astuce a été qu'entre chaque dilution, il laissait un temps suffisamment long pour que les bactéries puissent proliférer et se reproduire. Si bien qu'à la dernière dilution, alors que le sang, le plasma lui-même, avait été considérablement dilué, il ne restait plus que des bactéries. Et à ce moment-là, il les a injectées à un autre animal et montré que cet animal mourait aussi de la même maladie que celle du départ.
À l'époque, tout le monde ne le croyait pas.
Alors il y a eu bien sûr de considérables doutes, y compris parmi les plus grands, on va dire, médecins et académiciens, en particulier Brousset, pour parler d'un de ceux qui étaient connus à l'époque, Brousset disait qu'il ne croyait absolument pas à ce type d'expérience et que les microbes n'avaient rien à faire avec les maladies infectieuses. Quant à un autre, quelques années plus tard, convaincu qu'il y avait effectivement des microbes, disait à Pasteur « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de tous ces microbes ? Il suffit d'en regarder un pour les voir tous. »
Vous vous êtes beaucoup intéressé à Pasteur. Vous êtes d'ailleurs l'auteur d'une biographie de Louis Pasteur, Patrice Debré. Cet ouvrage est paru chez Flammarion. Je vous propose un extrait de votre livre. Nous voici au cœur du laboratoire de Pasteur.
À l'origine, la rue d'Ulm est un laboratoire de chimie. Le matériel nécessaire à l'étude des bactéries n'existe pas. Il faut l'inventer. De temps à autre se produisent des explosions. Des bouchons sautent et le liquide bouillant asperge le plafond. Ce sont les risques du métier, et Pasteur a eu la chance que ce genre d'incident ne fasse jamais de blessés. Dans une grande armoire sont réunies toutes les variétés de bouillons que Pasteur invente à mesure qu'il veut identifier un germe. Au fil des ans, le nombre de ses fioles augmente à la vitesse de ses préoccupations. Se côtoient ainsi les bouillons de bœuf, de poule, d'eau de levure, d'eau peptonée, le bouillon alcalin, le milieu neutre, etc. Dans l'armoire, chaque catégorie occupe une étagère particulière, la composition du milieu étant indiquée à l'encre bleue sur une étiquette encastrée dans le bois. À chaque germe, sa recette, que Pasteur publie.
C'était vraiment comme ça, le laboratoire de Pasteur ?
Oui, il faut imaginer que c'était effectivement comme ça, et c'est à partir de les préparations telles que celles que nous venons d'entendre qu'il faisait toutes ces expériences.
Troisième histoire, Patrice Debré, elle est en lien encore avec l'anthrax, cette maladie qui touchait beaucoup les moutons, et en lien avec la température. Quelle est-elle, cette histoire ?
Oui, c'est une histoire assez remarquable qui nous rapproche peut-être de ce dont nous avons parlé à propos du Covid et qui sont ces porteurs dits asymptomatiques. Pasteur disait que si les moutons mouraient, les poules, lorsque l'on injectait l'anthrax, ne mouraient pas. Et que par conséquent, il y avait bien une infection, mais qu'il n'y avait pas de maladie. Et un de ses détracteurs, qui s'appelait Gabriel Collin, qui avait l'habitude de critiquer Pasteur à chacune de ses expériences, lui a dit « Écoutez, moi je peux vous prouver au contraire que si nous injectons ce bacille de l'anthrax à des poules, eh bien, elles pourront mourir. » « Eh bien, dit Pasteur, si vous êtes si calé et si fort, prouvez-le. » Et quelques mois plus tard, lorsqu'ils se rencontrent, Gabriel Collin avoue penaud qu'il n'était pas arrivé effectivement à induire une maladie chez les poules, qu'elles se portaient bien et que d'ailleurs certaines d'entre elles avaient été mangées par un renard. Eh bien, dit Pasteur, moi je vais vous prouver au contraire que je suis capable de pouvoir induire une maladie chez les poules. Et lorsqu'il se retrouve, quelque temps plus tard, Pasteur arrive avec une cage, avec 3 poules. La première se porte effectivement très bien, voilà, dit Pasteur, celle-ci c'est le contrôle et par conséquent c'est normal qu'il ne se passe rien. La deuxième, qui caquetait, qui se portait également tout à fait bien, avait reçu une injection du bacille de l'anthrax et vous voyez, dit Pasteur, elle n'est pas malade. Eh bien, dit Colin, dans ces cas-là, pourquoi me dites-vous qu'il peut y avoir une maladie? Bien voici, dit Pasteur, en sortant la troisième poule qui, elle, était morte. Et Colin lui dit, mais comment avez-vous fait? C'est très simple, dit Pasteur. Lorsque je diminue la température de la poule, en l'occurrence lorsque je la plonge dans l'eau froide, à ce moment-là, la maladie se déclare et vous avez donc une maladie. Cette poule qui était porteur sain devient malade et c'est ce qui nous arrive tous les hivers quand nous ouvrons une fenêtre et que nous attrapons un rhume.
Quelle conclusion peut-on tirer de ces 3 histoires?
Eh bien, tout d'abord, on retiendra l'expérimentation remarquable de Pasteur. La deuxième qui est importante, c'est qu'il peut y avoir des porteurs sains asymptomatiques et que par une modification environnementale, le germe, en l'occurrence la bactérie, ce dont nous parlions, peut se développer et entraîner à son tour une maladie.
On retient aussi que l'hygiène est très importante. D'ailleurs, Pasteur refusait de serrer les mains, paraît-il.
Oui, si l'on met toutes ces histoires bout à bout, on retient cette notion absolument capitale qui est que les microbes sont partout, ils se trouvent sur les surfaces, ils se trouvent au bout de nos doigts ou dans les gouttelettes de salive et par conséquent, il faut des précautions d'hygiène.
Un seul savon suffit pour les soins du corps et les soins de beauté.
Savon Cadom.
Il est bon, le savon, le fameux savon Cadom. Nous savons que le savon Cadom, c'est le meilleur savon.
Patrice Debré, est-ce que je peux vous poser cette question? D'où viennent les maladies infectieuses?
Alors, les maladies infectieuses viennent la plupart du temps, en réalité, de l'animal. Et autant qu'on peut remonter... nous arrivons à la préhistoire, au moment où l'homme s'est assis à ses premiers foyers autour des fleuves et où il a tenté de domestiquer les animaux. Et c'est à ce moment-là, avec le cheval que nous avons vu arriver le tétanos, avec le bœuf la variole, avec le poulet et le porc la grippe, toute une série donc de maladies dues à la domestication des animaux. Et ce qui est intéressant, c'est que la domestication des animaux de l'Ancien Monde, celui dont je parle à l'instant, est différente de celui du Nouveau Monde. En Amérique, ceux qui occupaient à l'époque le pays avaient domestiqué d'autres races d'animaux. L'alpaga, le lama, le cobaye, et ainsi avaient connu d'autres maladies. Et lorsque Christophe Colomb et les Espagnols sont arrivés, eh bien, ils ont apporté des maladies contre lesquelles il n'y avait pas eu, nous en avons entendu parler, pas eu d'immunité collective.
Pasteur d'ailleurs disait, soit un être microscopique habitant telle ou telle contrée de l'Afrique où il existerait sur des animaux, sur des plantes ou des hommes, une circonstance fortuite l'amène en Europe, il pourra devenir l'occasion d'une épidémie.
Oui, ça rejoint ce voyage dans l'autre sens que je faisais avec Christophe Colomb. L'inverse peut aussi se produire. Nous savons aujourd'hui que les épidémies naissent dans un endroit, diffusent assez rapidement, avec toute une série de capacités qui sont liées finalement à nos capacités de voyage, de se rencontrer, les migrations, les modifications environnementales. Il y a toute une série de facteurs qui jouent et parmi les principaux, c'est la rencontre au départ de l'homme et l'animal, puis ensuite la contagion interhumaine.
I won't let it go.
Les films and the expressions.
Les aventuriers sur France Inter.
Les virus sont des machines parasitaires, les bactéries, des organismes vivants microscopiques. Ces microbes peuvent être à l'origine de maladies. La tuberculose est une des premières maladies épidémiques connues. Le choléra, la variole et la peste font aussi partie de l'histoire des hommes depuis longtemps. Les épidémies, très souvent, viennent de l'animal, car les microbes savent franchir les barrières des espèces.
Oui, il y a un exemple que nous connaissons tous, qui est celui de la peste. Et si on remonte le fil de ces territoires, par conséquent, on s'aperçoit du phénomène suivant. Il y a un microbe, ou il y avait plus exactement un microbe, il y a des milliers d'années, qui se trouvait dans le tube digestif. Un microbe pas très loin de celui qui nous donne des fièvres typhoïdes. Et à l'occasion des grandes famines, et par conséquent le rat comme l'homme en souffrait, ce microbe est passé du tube digestif dans le sang du rat, deuxième territoire. Puis ensuite, les puces sont arrivées. Et il a fallu à ce moment-là que le microbe s'adapte à la piqûre de la puce et, à travers celle-ci, voyage dans le corps de la puce. Troisième territoire. Mais là où c'est encore plus remarquable, c'est que, et pour voyager plus loin, ce microbe a acquis des capacités assez curieuses qui est de faire des bouchons dans ce qu'on appelle le proventricule, qui est au fond la sorte de trompe de la puce avec lequel elle pique l'homme. Comme il y avait un bouchon, lorsque la puce affamée aspire le sang de l'homme, ce sang ne peut pénétrer dans l'homme, mais il est retenu par le bouchon. Il attrape au passage quelques microbes et il est régurgité et infecte à ce moment-là d'homme. Donc nous voyons les passages successifs, au cours des années bien sûr, du tube digestif dans le sang, du sang dans le corps de la puce, du corps de la puce dans le proventricule et du proventricule à l'homme. Et ce passage successif est tout à fait remarquable. Il y a un autre intermédiaire évident qui est le rat. Et une des raisons pour lesquelles, semble-t-il, la peste a disparu, tout du moins en Europe, c'est que les races de rats, au départ, qui étaient très sensibles à ces bacilles, ont été remplacées par une autre source de rats, lesquels étaient résistants aux bacilles de la peste, qui fait qu'il pouvait toujours y avoir des puces, il pouvait toujours y avoir des hommes, mais à ce moment-là, le bacille de la peste ne pouvait pas arriver jusqu'à l'homme.
Voilà pourquoi. Mais les épidémies de peste ont laissé des traces dans l'histoire. On a des histoires d'épidémies épouvantables. Ça dure combien de temps, une épidémie de peste ?
Si vous vous souvenez de nos leçons d'histoire d'enfance, si je puis dire, toutes les grandes pestes du Moyen-Âge ont duré pendant des siècles et des siècles jusqu'à ce que l'on arrive à ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est finalement au changement de ce phénomène avec l'arrivée de nouveaux rats. Mais l'homme a cherché à s'en protéger. Et ceci nous conduit finalement à la quarantaine qui est, d'une certaine manière, l'ancêtre du confinement actuel. La quarantaine a débuté à la fin du XIVe siècle, dans une ville qui est Dubrovnik, et dans laquelle, parce qu'il y avait des épidémies régulières, les citoyens de cette ville ont incité les bateaux qui arrivaient dans le port de séjourner pendant 30 jours. 30 jours, et pendant 40 ans, on a continué ce rythme de 30 jours, de, si je puis dire, une quarantaine, jusqu'à ce que Venise, le conseil de Venise, augmente de 10 jours et qu'on passe à la quarantaine. Et cet isolement se faisait à Santa Maria di Nazareth, d'où le nom de Lazaret, que nous connaissons bien, et donc l'édiction de cette quarantaine. C'est la première fois qu'il y a une loi qu'on appelait une patente.
Et c'était efficace.
Et c'était efficace, tout du moins relativement efficace, quand il n'y avait pas, comme il y a eu dans certains cas, des ruptures de cette quarantaine et des rats qui ont pu s'échapper et entraîner donc ces pestes dont nous parlions.
Je vous propose un extrait de La peste d'Albert Camus.
Même lorsque le docteur Rieux eut reconnu devant son ami qu'une poignée de malades dispersés venaient, sans avertissement, de mourir de la peste, le danger demeurait irréel pour lui. D'un côté de la vitre, le ciel frais du printemps, et de l'autre côté, le mot qui résonnait encore dans la pièce. La peste. Et une tranquillité si pacifique et si indifférente niait presque sans effort les vieilles images du fléau. Athènes, empestée et désertée par les oiseaux, les villes chinoises remplies d'agonisants silencieux, les bagnards de Marseille empilant dans des trous les corps dégoulinants, la construction en Provence du grand mur qui devait arrêter le vent furieux de la peste, les malades tirés avec des crochets, le carnaval des médecins masqués pendant la peste noire, les charrettes de mort dans Londres épouvantée et les nuits et les jours remplis, partout et toujours, du cri interminable des hommes. Non, tout cela n'était pas encore assez fort pour tuer la paix de cette journée. Mais quoi ? Cela pouvait s'arrêter. Ce qu'il fallait faire, c'était reconnaître clairement ce qui devait être reconnu, chasser enfin les ombres inutiles et prendre les mesures qui convenaient.
Comment est-ce qu'on résiste aux microbes ? Est-ce que notre système immunitaire peut résister à certaines bactéries, à certains virus ?
Alors, il y a deux moyens, en fait, de lutter contre les microbes. Le premier, nous le connaissons bien, hein, c'est la distanciation physique, c'est-à-dire l'éloignement. Et la deuxième est liée à notre système immunitaire. Notre système immunitaire a été conçu pour effectivement lutter contre les microbes, quels qu'ils soient, avec deux types d'immunité. Une immunité innée, c'est-à-dire qui préexiste à l'entrée du microbe, qui par conséquent, à l'aide d'une série de cellules, sont capables de s'attaquer aux microbes dès qu'ils rentrent dans l'organisme. Et une deuxième immunité, dont on a beaucoup entendu parler, qui est l'immunité adaptative, c'est-à-dire qui, soit par des anticorps, soit par une autre forme de défense, sont capables de lutter contre ces microbes et leurs maladies.
Ça veut dire qu'on a été en contact avec le microbe et on est vacciné, entre guillemets.
On a donc une immunité qui s'exerce contre le microbe, mais que cette immunité s'exerce ne veut pas dire forcément qu'elle soit efficace. Il y a des maladies pour lesquelles nous avons une immunité qui est efficace, c'est le cas du Covid, il y en a d'autres pour lequel l'immunité n'est pas efficace, c'est le cas du sida que vous connaissez bien. Il y a une réponse immune indiscutable, mais cette réponse immune ne nous protège pas et n'éradique pas le microbe.
Un terrain en pente, au-dessus de la ville, des vieux matelas, des plantes et des bidons d'huile. Je monte là-haut m'asseoir, quand la ville s'allume, je regarde le soir et je fume. Je vois le cours de danse à côté de la piscine et les dames qui pensent dans leur cuisine. Elle pense aux actrices dans les halls monumentaux, les brassées d'iris et les beaux manteaux. Moi et mon ennui, on va tout de là-haut. On attend la nuit, on voit tout de là-haut. De mon belvédère, je regarde la France avec ses lumières, ses souffrances. Je vois au bord de l'heure une usine qu'on vend et des hommes qui pleurent devant. Plus loin les Anglis et Rouen derrière et le fleuve qui glisse dans la mer. Moi et mon ennui, on va tout de là-haut. On attend la nuit, on voit tout de là-haut. Au bord du canal, il y a des campeurs, des gens qui leur parlent et qu'ont peur. Un monsieur de dos à la découverte de l'Eldorado dans une poubelle verte. Fanion bannière, plaisir et souffrance, entre les barrières passe le Tour de France. La gloire a des chemins durs et abrupts. Pour monter le machin, faut prendre des trucs. Moi et mon ennui, on va tout de là-haut. On attend la nuit, on voit tout de là-haut. Un un terrain en pente, au-dessus de la ville, des vieux matelas, des plantes et des bidons d'huile. Je monte là-haut m'asseoir, quand la ville s'allume, je regarde le soir et je fume.
C'est Alain Souchon qui fume avec ce titre Un terrain en pente.
Les Saventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter.
On a l'impression que les microbes sont sans cesse à la recherche de nouveaux territoires pour proliférer. Ils sont mystérieux, aux confins du vivant. Un bacille peut dormir longtemps avant de se réveiller. Certains scientifiques vont jusqu'à dire que l'homme n'existe que pour permettre aux microbes de survivre. Les microbes sont les compagnons des hommes depuis la nuit des temps.
Il y a une jolie histoire qui est celle d'Alice au Pays des Merveilles. Dans Alice au Pays des Merveilles, Alice court et puis tout d'un coup elle saisit la main de la Reine de Cœur et elle lui dit « Écoutez, ma reine, c'est très curieux, plus je cours, moins j'avance. » Et la reine lui dit « Écoutez, ici c'est très simple, il faut courir très vite pour rester sur place. » Et cette image a été reprise par un théoricien de l'évolution qui s'appelle Leif Van Allen. Et qui veut dire que il n'y a pas une évolution, mais une coévolution. Et en l'occurrence, pour répondre à votre question, l'homme et les microbes ont toujours voyagé ensemble, tout du moins depuis que l'homme existe. Si d'ailleurs on revenait à un grand cadran de l'humanité en 12 heures, les bactéries seraient apparues à 2h45, elles seraient restées toutes seules jusqu'à 9h15, et l'homme ne serait apparu qu'à la dernière seconde. Dans ce temps ou dans cette contraction du temps, en tout cas, ce que nous savons, c'est depuis que l'homme existe, il vit avec les bactéries, pour le bon et pour le mauvais.
Patrice Debré, comment est-ce qu'on trouve la source d'une épidémie ?
Bien, comme nous l'avons vu, beaucoup des épidémies commencent dans la faune et principalement la faune sauvage. Et on cherche bien évidemment à ce que ces microbes qui pourraient s'être échappés de la faune sauvage arrivent à l'homme et ensuite s'y propagent. C'est-à-dire qu'il faut faire à travers une véritable enquête, les sources du microbe tel qu'on le voit apparaître chez l'homme jusqu'à les possibilités qu'il peut y avoir dans l'environnement de l'homme des sources possibles de contagion. Et pour cela, donc, il faut mettre à profit toute une série de talents qui sont pas seulement ceux de médecins et de biologistes, mais aussi ceux de vétérinaires, nous avons parlé de l'animal, des spécialistes de l'environnement et de l'écologie, du climat, pour arriver à comprendre ce qui va éventuellement se passer, et bien entendu aussi, puisqu'il s'agit de comportement humain, des sciences humaines et sociales, et il ne faut pas oublier les télécommunications ou téléinformations et bioinformaticiens qui sont bien entendu indispensables pour recueillir les données.
Ça, c'est aujourd'hui, mais je vous propose d'écouter comment on effectuait l'éveil sanitaire après la Seconde Guerre mondiale. Voici un extrait d'une conférence donnée par le docteur Fernand Gau en 1949. Ce médecin s'est beaucoup intéressé à l'hygiène.
Il existe un service de renseignement épidémiologique et de notifications télégraphiques des épidémies qui peuvent survenir dans un pays. Les informations sont télégraphiées par ce pays à l'Organisation mondiale de la santé et rediffusées par cette organisation par radio ou par télégramme ou par les deux manières tout à la fois, de manière à ce que les pays puissent prendre des mesures de quarantaine immédiates en temps utile.
Donc depuis 1949, on a beaucoup progressé.
On a progressé avec bien entendu des centres de veille et de surveillance. En même temps, nous l'avons vu quand même à propos du Covid, il n'y a probablement pas assez de collaboration et d'interaction entre les différents pays du monde. Car certes, un microbe peut apparaître dans une source, on sait qu'elle va diffuser ailleurs, il faut par conséquent extrêmement rapidement que les pays susceptibles de pouvoir être contaminés, les microbes circulent très vite, soient avertis et pouvoir dresser des mesures rapidement.
En quoi c'est important de trouver la source ?
Alors, tout d'abord, il faut essayer d'éviter que ça se répète. Et par oui. conséquent, c'est clair qu'il faut arriver à comprendre comment le phénomène s'est produit. Il faut également comprendre à partir du virus ou du pathogène, quel qu'il soit, originel, de quelle manière après il a continué chez l'homme sa contamination.
Patrice Debré, pourquoi est-ce qu'une épidémie s'arrête ?
Est-ce qu'il y a des facteurs qui déclenchent l'arrêt de l'épidémie ?
Je crois que c'est parfois aussi difficile de comprendre l'arrêt d'une épidémie que son émergence. Tout à l'heure, nous avions parlé du fait que les réservoirs animaux avaient changé, en l'occurrence des rats qui seront d'une certaine manière résistants, quelque sorte vaccinés contre le microbe. Dans d'autres cas, c'est le cas par exemple du SRAS en 2003, tout s'est arrêté assez rapidement avec les mesures de distanciation qui avaient été prises à l'époque. Mais si nous suivons d'autres infections à coronavirus, il y a beaucoup à penser que ça ne va pas s'arrêter si facilement que cela. Mais encore une fois, il y a une très grande incertitude et il faut par conséquent prendre le maximum de mesures d'hygiène pour éviter qu'elle ne continue. Il y a sûrement également des variations saisonnières qui peuvent influencer la contagion elle-même. Et puis n'oublions pas que le virus mute et que ces mutations sont à chaque fois pour le virus une occasion de tenter de se propager plus vite et mieux.
Donc c'est une stratégie pour survivre, la mutation.
Oui, enfin si on donne un génie au virus, oui, nous dirions que c'est cela.
Bien sûr, un génie entre guillemets.
Entre guillemets.
Vous avez parlé des épidémies qui varient en fonction des saisons, on peut citer la grippe.
Oui, la grippe saisonnière avec son lot de mutations, il y a aussi des occasions avec lesquelles ou par lesquelles les épidémies se propagent. Par exemple, il y a une épidémie assez curieuse qui s'appelle la fièvre hémorragique d'Argentine. On a mis très longtemps à comprendre pourquoi et comment cette maladie qui survenait régulièrement au moment des moissons se propageait. Et à force d'enquête, on s'est aperçu en fait que cela datait de l'arrivée des moissonneuses-batteuses. Et ce qui se passait, c'est que lorsqu'on faisait une moisson avec les moissonneuses-batteuses, les rats qui se trouvaient dans les champs étaient pris par les moissonneuses-batteuses et du sang giclait sur les travailleurs. Et c'est dans ce cas que, à cette occasion, on a compris que certaines fonctions humaines et certaines saisons, en l'occurrence la moisson, pouvaient être responsables de la propagation d'épidémies.
Perfect match.
On ne pouvait pas échapper à ce titre, virus, c'était Björk.
Les aventuriers sur France Inter.
Les microbes peuvent nous détruire, mais nous ne pourrions pas vivre sans eux. Ils pullulent par milliards dans l'obscurité de nos entrailles. Ils nous aident à lutter contre les infections et renforcent notre système immunitaire. Mais avant de parler des microbes qui font du bien, le sentiment de Patrice Debré sur la crise que nous vivons avec le coronavirus, pour lui, nous apprenons à faire face.
Je crois qu'il y a déjà une grande leçon que nous devons en tirer et qui est celle-ci. Nous nous sommes aperçus en fait qu'il fallait éduquer, informer et qu'aucune décision ne pouvait être prise si le public, mais pas seulement le public, les médias, les politiques, ne comprenaient pas ce qui se passait d'un point de vue scientifique. Et d'ailleurs, de savoir que la science, eh bien c'est jamais une vérité pure, la vérité évolue avec le temps et que par conséquent il n'y a pas de certitude absolue. Mais l'instruction, l'éducation me semble-t-il, sur ce monde des microbes, sur la capacité qu'ils ont à être pathogènes et nous à finalement à vaincre les peurs que cela nous donne, cela me semble-t-il est peut-être une des grandes leçons. Ces leçons pourtant, il faut les avoir en ce qu'on appelle en temps de paix, c'est-à-dire au moment où l'on est tranquille et malheureusement à ce moment-là, le citoyen semble être plus loin des désastres annoncés.
Donc on est plus prêt aujourd'hui qu'on ne l'était il y a 6 mois à faire face.
Certainement, et si l'on peut penser que le microbe n'a pas disparu, qu'il y a toujours un risque qu'il y réapparaisse, au moins saurons-nous que les mesures qui sont en cours aujourd'hui et qu'il faut garder, ces mesures de distanciation, on peut les comprendre, on peut les interpréter et on saura d'une certaine manière mieux résister à une nouvelle vague si malheureusement elle arrive.
Je vous propose d'écouter un extrait du Hussard sur le toit, écrit par Jean Giono en 1951. On est en Provence, la région est infestée par le choléra. Ce que vous allez entendre est une version radiophonique qui date de 1953 avec Gérard Philippe.
Mais jeune homme, vous faites courir les plus grands dangers à la communauté avec votre imprudence. Et vous avez fait entrer ici une serviette venant du village où il y a sans doute des malades. Mais tout ce qu'on peut se permettre pour des temps pareils, c'est de manger des œufs à la coque.
Moi, je n'ai pas confiance en l'aubouis. Et le grand tort que vous avez, vous, et ceux qui me regardent avec de grands yeux, c'est de ne pas vivre comme d'habitude. Vous voyez précisément que moi qui soigne les malades et qui les touche, je ne suis pas malade. Moi qui ai mangé un poulet entier, je ne suis pas malade. Et vous qui avez peur, et qui vous méfiez de tout, vous mourrez.
Cette peur dont parle Jean Giono, est-ce que vous l'avez éprouvée ?
À vrai dire, il me semble que lorsqu'on connaît mieux ce qu'est une épidémie, la manière dont elle peut survenir, la manière dont elle diffuse, à quoi elle peut être due... Et rappelons-nous que nous sommes aujourd'hui centrés sur les virus, mais nous savons aujourd'hui qu'il y a de nombreuses bactéries qui résistent aux antibiotiques et que c'est probablement un fléau qui nous menace. Eh bien, lorsqu'on s'est plus averti, lorsqu'on connaît mieux, je pense qu'on sait vaincre les peurs et tout de moins savoir que ces désastres peuvent exister et survenir.
Vous avez écrit dans un de vos livres « La fécondité de la nature surpasse l'imagination des scénaristes ».
Oui. Mais c'est une page que j'écrivais en tant qu'écrivain en y réfléchissant et je me suis dit qu'on ne pouvait pas imaginer tous les désastres, mais vous voyez que finalement l'aventure du Covid correspondait d'une certaine manière à un des scénarios qui était dans ma tête à l'époque.
Patrice Debré, face aux épidémies, on cherche des vaccins. Comment est-ce qu'on s'y prend ?
Eh bien, savoir faire un vaccin, c'est savoir stimuler le système immunitaire. Et stimuler un système immunitaire pour qu'il, justement, il guérisse avec les armes qu'il a, les anticorps d'un côté et les cellules de l'autre, il guérisse contre la maladie en question. Ça veut dire qu'il faut connaître ce qu'on appelle les corrélats de l'immunité, c'est-à-dire à quoi finalement l'immunité est due et protectrice. Est-ce que c'est par l'une ou l'autre de ses fonctions ? Est-ce que c'en est d'autres encore ? Et à ce moment-là, eh bien, on cherche... par différents produits, à provoquer cette immunité et en provoquer la mémoire. Un des plus simples au départ, c'est ce qu'ont inventé Pasteur en utilisant des microbes tués ou des microbes atténués pour essayer d'induire une immunité. Mais je crois qu'il y a un point fort qu'il faut que nous rappelions, c'est se protéger par le vaccin, c'est également protéger les autres.
Patrice Debré, les microbes peuvent nous détruire, mais nous ne pourrions pas vivre sans les microbes. Vous l'avez d'ailleurs rappelé au début de cette émission. Il y a dans notre intestin plus de bactéries que de cellules dans notre corps, le sujet est à la mode, mais on en parlait déjà en 1961 à la radio, écoutez ça.
À côté des microbes pathogènes contre lesquels nous sommes capables de lutter efficacement depuis Pasteur, nous hébergeons des milliers, des millions d'êtres, des virus, des bactéries, des parasites, qui vivent en symbiose avec nous, apparemment sans dommage sur notre organisme. Apparemment, car je crois, docteur, qu'actuellement, de nos nombreux laboratoires, des chercheurs se demandent si ces êtres vivants ne jouent pas des rôles importants, bénéfiques.
Une vie sans microbes ne saurait pas être sérieusement imaginée. En 1889, Schotelius, savant allemand, affirmait que l'élevage d'animaux parfaitement débarrassés de germes avait seulement l'intérêt d'un jeu et qu'il était d'ailleurs impossible de garder longtemps un élevage de cet ordre. C'est alors qu'en France, Metchnikoff exprima l'idée que le vieillissement était dû à des sécrétions de microbes sauvages que nous portons dans notre intestin. « Veut-on rester jeune ?» disait Metchnikoff. « Il importe d'abord de mettre ceci à la raison. »
Le docteur Delaunay, en 1961, parlait donc des bactéries dans nos intestins, indispensables à notre vie.
Oui, il y fait effectivement référence, et d'ailleurs il fait référence au temps de Pasteur, car Pasteur lui-même avait déjà vu ce phénomène tout à fait extraordinaire. Il avait cependant dit à ses collaborateurs qu'il était trop préoccupé du microbe pathogène, celui qui nous tue, pour avoir le temps de s'intéresser aux microbes commensaux, c'est-à-dire ceux sans lesquels nous ne pouvons vivre. Et c'est un de ses collaborateurs, Metchnikoff, qui vient d'être cité, qui a été à l'origine de toute une série d'études, qui pourtant rejoint aujourd'hui de nombreux travaux qui sont particulièrement, je ne vais pas dire à la mode, mais compétitifs et importants dans le monde, car ces microbes sont à la fois ceux qui vivent avec nous, source de grandes fonctions et en même temps donnent une série ou possiblement de maladies.
Alors, grandes fonctions, quelles grandes fonctions ?
Il y a deux grandes fonctions qu'ont ces microbes. La première a trait à la digestion. Et en particulier, la digestion des sucres est toute une série de sucres, dont les amidons. Ils sont source d'apports vitaminiques, ils sont source également de peptides, c'est-à-dire de protéines. Et cette fonction de digestion est extrêmement importante au point que je dis souvent que lorsque nous mangeons, eh bien, nous nourrissons en particulier ces bactéries qui digèrent pour nous une partie de notre alimentation. Et puis la deuxième fonction, qui est peut-être plus étonnante, est celle-ci. Ces microbes éduquent notre système immunitaire à lutter contre les mauvais. De telle sorte que ce sont les bons microbes qui font que nous ayons, que nous facilitons une réponse contre les mauvais.
Donc là, on peut parler d'intelligence du vivant.
En tout cas, c'est aussi bien l'homme que le microbe, puisque chacun bénéficie de ce double phénomène. Les microbes parce qu'il est nourri avec l'alimentation de l'homme, et l'homme parce que le microbe sert à la digestion et à l'éducation du système immunitaire. Forme d'intelligence, on va dire que c'est une forme de coévolution qui fait que c'est du gagnant-gagnant pour chacun des deux. Cependant, cette histoire n'est pas si simple, car comme je le disais au début, nous avons trouvé, ou il a été trouvé, une série de corrélations entre la présence de ces microbes et toute une série de maladies humaines, certains cancers, certaines maladies dites auto-immunes, comme les polyarthrites rhumatoïdes.
On parlait même de l'autisme.
Et jusqu'à des maladies d'ordre psychiatrique comme l'autisme. Et donc, beaucoup de gens aujourd'hui se penchent sur ces phénomènes et essayent de comprendre de quelle manière est-ce que ces microbes, qui nous sont bénéfiques encore une fois, peuvent entraîner dans certains cas, ou tout du moins être reliés dans certains cas, à un certain nombre de pathologies. Et si cela était, au passage, j'ai oublié de parler des diabètes et des maladies métaboliques pour lesquelles ils interviennent, si cela était, ce serait de nouveaux médicaments possibles.
Donc vous parlez là des microbes qui sont dans nos intestins et qui sont regroupés sous le nom de microbiote, ce mot très à la mode.
Oui, en réalité, ils ne sont pas seulement dans les intestins, ils sont dans toutes les surfaces avec lesquelles l'homme communique avec l'environnement. Ils sont sur la peau. Et chose tout à fait extraordinaire, si ces microbes n'étaient pas là, si le microbiote de la peau n'était pas là, nous n'aurions pas d'odeur. C'est par eux que nous avons des odeurs particulières, qu'on se reconnaît, que les animaux se reconnaissent aussi, que les insectes sont attirés, par exemple, à cause des odeurs que nous avons. Et cela est dû au microbiote. Il y a également un microbiote dans les voies aériennes supérieures, il y a chez la femme un microbiote dans le vagin. Bref, à chaque fois qu'il y a une relation avec l'environnement, il y a des bactéries qui sont là et qui sont là pour notre bien autant que pour le leur.
Je résume, un bon microbiote et on est en forme, un microbiote qui n'est pas équilibré et les problèmes peuvent arriver, c'est ça?
Oui, c'est ce que l'on appelle une dysbiose. Et sous ce nom, sous ce vocable, on voit qu'il peut y avoir des proliférations en réalité anormales. Il y a un équilibre qui doit être trouvé pour que ces microbes dits commensaux, donc dans toutes les surfaces que je citais tout à l'heure, puissent avoir des fonctions dans lesquelles nous retrouvons cette idée gagnant-gagnant. Gagnant pour eux, gagnant pour l'homme.
À tel point qu'aujourd'hui, on peut même greffer du microbiote chez quelqu'un
alors,
de malade.
Il y a effectivement des tentatives, en particulier par transplantation de selles. Et ces transplantations fécales sont utilisées aujourd'hui dans une seule indication, qui est une infection à Clostridium difficile, donc une bactérie qui peut être très, très dangereuse. Cela dit, derrière cette unique utilisation autorisée, des recherches se font pour tenter d'intervenir, probablement par transplantation, si on y arrive, effectivement, intervenir contre les maladies qui pourraient être dues à un microbiote qui ne fonctionne pas bien.
Patrice Debré, pour conclure, on ne pourrait pas vivre sans les microbes. Qu'est-ce qui se passerait ?
Non, il a été prouvé justement que dans ce phénomène de coévolution, qui est au fond toute l'aventure du vivant, l'homme ne peut pas vivre sans le microbe, amour et guerre à la fois, si je puis dire. Et cet besoin que nous avons les uns des autres, probablement lié à ce partage du temps où, derrière les millions d'années pendant lesquelles l'homme et le microbe ont vécu ensemble, nous font penser qu'il faut avoir plus et encore un regard sur cette interaction, une recherche qui doit se poursuivre, et quelque part une information et une éducation du grand public. Et vous, qui êtes des médiateurs, être, me semble-t-il, important dans ce passage de l'information.
Les microbes sont une source d'avenir.
Certainement, mais ils ont été une source de passé et nous serons toujours ensemble.
Toda menina baiana tem santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito. Também que Deus dá, que Deus dê, que Deus dá, que Deus entendeu de dar a primazia, o bem pro mal, primeira mão na Bahia, primeira missa, primeiro índio abatido também, que Deus dê. Deus entendeu de dar toda a magia. O bem pro mal, primeiro chão na Bahia. Primeiro carnaval, primeiro pelourinho também. Que Deus dê. Vem pro mal, primeiro chão na Bahia.
carnaval, primeiro pelourinho também. Deus dê.
Titre qui sent fort le Brésil, c'était Gilberto Gil et merci beaucoup à Djoubaka pour cette belle programmation musicale. Patrice Debré est l'auteur de Vie et mort des épidémies aux éditions Odile Jacob. Son dernier livre est consacré à la modification de l'homme par la machine, l'environnement ou la biologie. Cela s'appelle Les révolutions de la biologie et la condition humaine et c'est paru également chez Odile Jacob. Merci à Stéphanie Texier qui a réalisé cette émission. Merci à Fanny Leroy pour les recherches d'archives et pour ses lectures qu'elle a faites avec Jérôme Sandlars. Et merci aussi à François Rivalant à la technique. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster sur le site de France Inter. La page des Saventuriers est aussi à votre disposition. Samedi prochain, nous parlerons des plantes et de neurobiologie végétale avec le chercheur François Bouteau. Ses travaux sont très originaux. Très bonne semaine à tous à l'écoute de France Inter.